Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on plonge donc tout de suite dans le direct, entre guillemets, des marchés. On va prendre un petit peu le pouls des choses de cette réélection, de voir un petit peu comment tout ça a été digéré. Voilà, quelques jours après la fameuse nuit américaine, c'est Wilfried Galland qui est avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour Cédric.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette victoire de Donald Trump? J'ai envie de dire, il y a plein d'angles sur lesquels on va essayer de serrer. Alors, on peut parler de croissance qu'on pourrait mettre en duel presque avec l'inflation. On peut parler de la Fed. On peut parler, bien évidemment, de la géopolitique. Ça va certainement aussi influer les marchés. Puis, on regardera un peu comment les bourses, les indices ont réagi. Voilà, vous l'analysez comment, cette victoire de Donald Trump, d'abord?
Déjà, c'est clairement la victoire de celui qui a mis au cœur de son discours l'économie. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez majeur. On pensait que l'élection pouvait se jouer sur des questions sociétales, hein, sur des questions liées par exemple à l'avortement, des questions liées à la démocratie. En fait, on voit très bien que les Américains ont décidé sur à la fois leur portefeuille d'aujourd'hui et l'avenir éventuellement de leurs enfants. Est-ce que je vais être mieux ou pas avec le président qu'on me propose, et selon quels critères?
C'est ce qu'on a un peu résumé, la fin du mois avant la fin du monde, quoi.
Exactement. Et en fait, derrière, ce qui a véritablement beaucoup marqué, c'est si on regarde les politiques de Donald Trump telles qu'il les a présentées dans sa campagne, il y a quatre grands thèmes. Il y a le thème de la baisse des impôts, il y a le thème de la baisse des réglementations, il y a le thème des droits de douane et du protectionnisme. Et puis, il y a également le thème d'un certain retour à une Amérique un peu rêvée. Un certain retour sociétal au fait qu'il faut arrêter de parler d'autre chose que du bien-être des Américains et ne pas se projeter dans un structuralisme qui passe largement au-dessus de la tête des électeurs. Et clairement, ce qu'ont privilégié les électeurs, c'est de se dire, en fait, on va d'abord et avant tout parler de la croissance avec, et vous avez raison de le mentionner, le sujet de l'impact de cette politique que Donald Trump veut très pro-cyclique. L'Amérique va bien. L'Amérique aujourd'hui va bien. Je reprends les mots de Jerome Powell dans sa dernière conférence de presse. Mmh. L'état de l'économie américaine est remarquable. Est remarquable. Et donc, effectivement, on va avoir une politique américaine, ce qui a été salué par les marchés, au moins dans un premier temps, très pro-croissance, très aussi pro-cyclique, très peut-être Amérique d'abord, mais peut-être Amérique seule. Donc, comment est-ce que tout ceci va s'articuler? Pour l'instant, les marchés ont dit ça va bien se passer. Il y a un certain nombre de questions et ces questions commencent à arriver.
Ouais, la principale question, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'était de voir que cette campagne s'est beaucoup axée en faisant porter la responsabilité de l'inflation qui a beaucoup impacté, entre guillemets, l'Américain, sur le bilan de Joe Biden, des démocrates, etc. Mais quand on regarde toutes les propositions, entre guillemets, qui devraient être la colonne vertébrale de la politique de Trump, comme elle l'avait en partie été lors de son premier mandat, c'est hyper générateur potentiel d'inflation en plus. Enfin, je veux dire, si on remet des doigts derrière barrière, si on grippe le commerce mondial, si on booste la croissance, etc., ça va forcément générer de l'inflation, non?
Alors, le véritable sujet sur l'inflation, ça va être la politique migratoire. Est-ce que Donald Trump va mettre en place une politique migratoire aussi stricte que celle qu'il souhaite? Parce que pris isolément, en fait, si on regarde l'impact dans l'histoire de la mise en place de droits de douane, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, ça n'a pas été inflationniste. Ça a été récessionniste et souvent déflationniste.
D'accord.
Parce qu'en fait, on a effectivement un certain nombre de biens dont le prix monte, mais sur l'ensemble de l'économie, l'impact sur le pouvoir d'achat, si je veux exprimer ainsi, est telle qu'en fait, on a effectivement un effet de baisse des prix général ou en tout cas un effet de récession. Donc, c'est totalement absorbable dans l'économie américaine si, et seulement si, le marché du travail continue à être aussi fluide qu'il l'est. C'est le miracle de l'économie américaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réussi en fait à avoir un taux de chômage inférieur à 4%, là légèrement au-dessus de 4%, autour de 4%, sans avoir d'accélération. Au contraire, on a une baisse de l'inflation. Pourquoi? Parce que le marché du travail américain, c'est... Alors, les chiffres, évidemment, divergent, hein, mais c'est entre 4 et 6 millions de travailleurs non déclarés aux États-Unis, dont un peu plus de 1 million qui rentrent à peu près tous les ans. Si vous supprimez ça, non seulement si vous supprimez le flux, mais si vous enlevez le stock, C'est-à-dire si je veux...
Oui, parce qu'il veut en reconduire théoriquement voilà, à la frontière.
Voilà, lui, c'est les... Enfin, je cite, c'est un terme assez dur, hein, mais les déportations massives. Là, dans ce cas-là, effectivement, vous grippez votre marché de l'emploi, vous recréez des chocs d'offres sur l'emploi simple. Et là, effectivement, vous avez ce choc inflationniste, en plus si vous mettez des droits de douane importants. Donc là, effectivement, il va falloir faire très attention parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est véritablement le cœur de la performance américaine, c'est cette fluidité du marché de l'emploi qui permet le développement aussi de la productivité, qui permet l'amélioration de la croissance potentielle et le fait que tout le monde est confortable sur le fait que l'économie américaine se porte bien dans le moyen terme. Si ça s'arrête, alors effectivement, là, on commence à rentrer dans une autre phase beaucoup plus inquiétante.
Aujourd'hui, on sort de cette élection en disant, bon, il a la Maison-Blanche, il a la Chambre des représentants, il a le Sénat, il a la Cour suprême. Enfin, en clair, il a tous les leviers. J'ai envie de dire, en face, il y a...
À part les États, quand même.
À part les États. Mais en face, il a un levier qu'il n'a pas encore, et vous avez cité son détenteur, c'est Jerome Powell, c'est la Réserve fédérale. Ouais. On sait qu'ils ont déjà eu des mots. Oui. On sait que la Fed était est engagée dans une trajectoire de remontée des taux. Est-ce que aujourd'hui... De baisse de taux, enfin de d'assouplissement, de meilleure gestion, on va dire, de sa politique monétaire. Est-ce que aujourd'hui ils peuvent s'entendre ces deux-là, parce que on sait que en gros il aime pas bien qu'on lui résiste, Donald Trump. Clair, il va falloir que la Réserve fédérale elle soit compréhensive.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que la question évidemment a été posée à Jerome Powell. Le paradoxe ou l'ironie de l'histoire étant que la dernière réunion de la Réserve fédérale était le lendemain de l'élection américaine. Donc évidemment, toutes les questions étaient, en tout cas une bonne partie des questions de la conférence de presse, étaient sur est-ce que lui allait démissionner ? La réponse a été brutale, a tenu en un mot, non. Et est-ce que Donald Trump avait les moyens de le faire partir ? Et la réponse de Jerome Powell, qui a répondu très clairement, il a dit « ce n'est pas permis dans le régime de droit que nous avons aujourd'hui. Not permitted under the law ». Exact. Et il s'est arrêté là. Ce qui veut dire qu'il se met dans une position de rapport de force avec Donald Trump. Ce qui sera important de voir, c'est comment est-ce que Donald Trump va essayer d'influer sur l'environnement de la Réserve fédérale américaine. Il l'a déjà fait par des tweets, par des propos, par des interviews, sachant que la Réserve fédérale américaine, pour changer ce mode de fonctionnement, il faut un changement du Federal Reserve Act. Et il est très peu probable, compte tenu de l'environnement politique aux États-Unis, que ce Federal Reserve Act soit changé. Vous rappelez effectivement le pouvoir législatif dans les mains des Républicains. Sur la Chambre, c'est assez limite. Hein. Sur la Chambre, on va avoir à peu près 220 contre 215. Donc, un rapport...
Ouais,
Donc, pour embarquer des Républicains qui seront un peu plus traditionnels, ce sera difficile. Mais en tout cas, ça va être le cœur... De l'attention des marchés. Les marchés détestent quand on déstabilise ce système-là qui est le cœur du système financier américain et mondial, c'est le dollar. Si vous déstabilisez le dollar, alors, effectivement, il y a un très gros problème. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de fonctionner ensemble. Finalement, ils ont réussi dans la première partie du premier mandat de Donald Trump. Est-ce que ça va continuer à être le cas ? Il va falloir véritablement suivre ça. Vous avez totalement raison.
Sauf que si, à un moment ou à un autre, l'inflation repart... Il faudra que Jerome Powell change son fusil d'épaule.
Absolument.
Je le disais, resserrement ou non de taux. Enfin voilà.
D'où l'importance effectivement du suivi de la politique migratoire. Si ça n'est pas le cas, Jerome Powell, il a deux mandats. Il a maximum employment et la partie stabilité et la stabilité des prix. Si effectivement on commence à avoir des instabilités sur le marché du travail, le marché du travail qui trop tendu. Là, Jerome Powell sera obligé d'intervenir. Si ce n'est pas le cas, il peut maintenir une certaine ambiguïté. Donc là, on va peut-être avoir une espèce de levier de négociation pour dire, oui, effectivement, vous devez, voilà, pour les caméras, mettre peut-être un certain nombre de cars en place en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, la frontière va être enfin gérée. Il va falloir faire attention de ne pas trop déstabiliser l'économie américaine. C'est quand même là-dessus que les électeurs se sont prononcés aussi. Oui, pour... revenir à une politique migratoire beaucoup plus restrictive, mais oui, surtout à un marché de l'emploi qui fonctionne bien.
Ouais, et à une grandeur de l'Amérique, etc.
Et une grandeur de l'Amérique.
Alors, cette grandeur de l'Amérique, elle se mesure aussi peut-être sur le reste de la planète.
Oui.
Et là, c'est vrai que la dernière fois, il est arrivé, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de guerre commerciale. Donc, il a pu allumer une guerre commerciale tranquillement parce qu'il n'y avait pas de conflit.
Ouais.
Là, il revient, il n'y a peut-être plus tout à fait de guerre commerciale, mais il y a des vrais conflits,
oui,
des vraies guerres. Comment est-ce que vous voyez, en tant qu'économiste, ce deuxième mandat démarrer avec la Chine, avec la Russie, avec le Proche-Orient ?
On est vraiment avec Donald Trump.
J'ose pas dire avec l'Europe parce que.
Non, mais on est vraiment dans une logique très transnationale. Bah, l'Europe, on est gentiment qualifié de mini Chine. Hein, c'est hyper sympa. Voilà, l'Europe, c'est la mini Chine pour Donald Trump. Bon, formidable. On se sent valorisé hein, tout de suite. On a véritablement un sujet avec Donald Trump sur son approche des relations internationales, qui est une approche qui est très transactionnelle. En fait, Donald Trump revient à une tradition de la diplomatie américaine qui résonne beaucoup aux États-Unis, qui a la tradition d'Andrew Jackson. Andrew Jackson, c'était le président en 1836, c'est le premier qui a dit « Moi, je suis prêt, par exemple, à mettre au service de l'économie l'armée américaine à condition d'avoir véritablement un retour pour les Américains. » Donc, c'était le premier à avoir, après la période virginienne, George Washington et des pères fondateurs, une vision qui était très, effectivement, « America first ». Et Andrew Jackson, c'est celui dont Donald Trump se nourrit. C'est lui dont le portrait a été remis dans la Maison Blanche parce que c'est quelqu'un d'assez controversé en fait aux États-Unis, même si tous ceux qui sont allés aux États-Unis connaissent à peu près son image, parce que c'était l'image des billets de $20. Mais on est véritablement là-dedans avec Donald Trump. Donc, est-ce qu'il va réussir à maintenir justement tous ces équilibres avec des gens qui sont un peu imprévisibles ? Peut-être. Mais ça rend le monde plus incertain.
Ouais.
Et ce prix-là, je pense qu'on n'est pas encore véritablement équipé pour l'évaluer véritablement. Cette incertitude née de l'imprévisibilité que lui-même revendique. Il dit « Moi, je suis imprévisible, donc mes interlocuteurs vont se plier à mes desiderata parce qu'ils savent que je suis prêt à faire n'importe quoi ». En termes de gestion de négociation, vous partez quand même sur un périmètre un peu compliqué. Ça rend le monde plus incertain. Ça rend aussi peut-être aussi un certain nombre de conflits. Ça va les remettre en lumière. Et faut pas oublier que Donald Trump, c'est celui qui a permis de signer les accords d'Abraham au Moyen-Orient et donc d'avoir une certaine légitimité d'Israël, stabilité aussi de la région. Ça a pas trop mal marché dans un certain nombre de cas. Donc regardons avec curiosité, peut-être un peu de prudence, mais beaucoup d'esprit d'ouverture, parce que peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui pourraient avancer plus facilement qu'avec une approche très multilatérale classique.
Est-ce que tout n'est que Trump sur votre
pas totalement, bureau
quand vous arrivez le matin, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous regardez, que vous considérez pour appréhender finalement le contexte financier de cette fin d'année ?
Je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, tout le monde le sait, c'est comment est-ce que la Chine va piloter ces nouveaux équilibres économiques ? Est-ce qu'on va enfin avoir une véritable relance de la demande ? C'est en train peut-être un petit peu d'arriver. Les dernières statistiques sur les ventes au détail en Chine étaient bien plus favorables qu'attendues. Donc, même si le reste de l'économie ne va pas très bien, peut-être qu'il y a un certain élan là-dessus. Et la Chine, c'est le deuxième moteur de l'économie mondiale. Donc là, il faut regarder. Et l'autre élément qu'il faut véritablement regarder, pour l'instant, il est très rassurant, c'est le prix de l'énergie et le prix du pétrole.
D'accord.
Contrairement à ce qu'on imaginait avec les tensions géopolitiques dont on parlait à l'instant, on n'a pas de tension sur les prix du pétrole. Et quand on regarde, par exemple, l'évolution de l'inflation, par exemple, en Europe, elle suit le prix du Brent avec un décalage de 8 mois. En fait, vous prenez la courbe du Brent, vous prenez la courbe de l'inflation avec un décalage de 8 mois, c'est quasiment la même courbe. Donc, c'est très important d'avoir une stabilité des prix de l'énergie. On a parlé de la stabilité monétaire avec l'inflation. La stabilité de l'énergie, c'est la deuxième stabilité qu'il va falloir véritablement regarder. Pour l'instant, la stabilité des monnaies est là, la stabilité de l'énergie est là. La Chine relance un peu, l'Amérique, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le contexte n'est pas si mauvais que ça.
Bon, ben voilà donc un petit tour d'horizon. Pour terminer, Wilfried Galland, qu'est-ce que vous recommanderiez en cette fin d'année à un investisseur, par exemple un particulier qui nous écoute ce matin ? Comment il doit appréhender un petit peu ce marché, cette composante de son patrimoine ?
Je pense qu'il faut déjà enlever le voile de pessimisme très français qu'on peut avoir régulièrement sur l'économie. Les marchés ne sont pas le baromètre de l'économie. Ils n'ont pas vocation à être le baromètre de l'économie. Ils donnent simplement des prix, comme un marché en bas de chez nous, aux actifs qui y sont cotés. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important d'avoir, d'abord d'avoir ça en tête. Et il y a énormément de création de valeur qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai deux éléments très importants que l'investisseur doit garder en tête. Le premier, c'est que les taux restent à des niveaux qui sont significatifs et intéressants. Et donc, avoir de la partie taux dans son portefeuille via des obligations, via des fonds en euros, c'est une bonne idée. En plus, on en parlait plutôt dans une phase de baisse de taux. Donc, la revalorisation de ces actifs-là va continuer à avoir lieu. Ça me paraît intéressant pour stabiliser également les portefeuilles. Hein. On est encore dans une phase qui est plutôt favorable. Et puis, ne pas oublier effectivement qu'on a plein de créations de valeur sur le marché actions. Moi, je suis très favorable toujours au marché actions américain parce qu'effectivement, c'est le marché leader. Et c'est là, effectivement, où se passent énormément de choses, en particulier sur la technologie. Ne pas oublier quand même le marché d'actions européen. On est à des niveaux quand même de valorisation qui restent très, très bas. Si on a un peu une vision Warren Buffett de l'économie, avoir un peu d'audace quand tout le monde a peur, c'est peut-être pas plus mal.
Merci beaucoup, Wilfried.
Avec plaisir, Cédric.
Wilfried Galland et Montpensier Finance qui nous accompagnaient. On va rester baigné dans ce bain américain. Et on va parler d'un actif qui a beaucoup fait jaser, c'est le Bitcoin. À tout de suite.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.